Prenons place, frères et sœurs, pour ouvrir la Bible à la première épître aux Corinthiens. C'est notre chef de chœur, Nicholas Burton Page, qui m'a inspiré la lecture de ce chapitre qui est cher à son cœur. Et c'est donc dans la première épître de Paul aux Corinthiens que je vais vous lire ce chapitre 2. C'est donc Paul qui parle, qui écrit. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas jugé bon de savoir quoi que ce soit, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour parler des choses spirituelles. Quant à l'homme naturel, il n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée du Christ. Seigneur, ta parole est pour nous source de la vérité et de grâce. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Le cantique 143, s'il n'est pas d'une joie exubérante de premier abord, nous permettra de prolonger la méditation de ce texte biblique. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 de ce cantique 143 et nous nous levons, telle une croix plantée en terre. Éternel, toi qui, par ton esprit, assemble les croyants en tout lieu de ce monde, inspire celles et ceux qui parlent, rends attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que l'Évangile soit la vérité de notre foi, la source de notre amour, la fermeté de notre espérance. Chers frères et sœurs, si cet après-midi des visiteurs viennent pour découvrir le patrimoine architectural de notre Église, peut-être seront-ils susceptibles de vous poser la question : quel est votre patrimoine spirituel, votre patrimoine théologique ? Eh bien, à cette question, quel est notre patrimoine ? L'apôtre Paul répond : Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Alors, rien de plus normal, me direz-vous, que de placer au cœur de notre patrimoine Jésus-Christ. Il suffit de se rappeler que nous nous appelons chrétiens, et après tout, au départ, chrétien, ce fut le sobriquet que les habitants d'Antioche ont donné à ceux qui se disaient disciples de Jésus, un Jésus dont ils disaient qu'il était le Christ. Sur le papier, c'est une évidence. Nous sommes chrétiens parce que Jésus-Christ, finalement. Mais dans les faits, c'est beaucoup plus nuancé que cela. Nicolas Burton Page, notre chef de chœur, me disait récemment qu'à l'occasion d'un atelier de prédication consacré à ce verset biblique, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, les personnes qui étaient rassemblées avaient finalement composé une prédication où il n'était jamais fait mention de Jésus-Christ et encore moins de Jésus-Christ crucifié. Ce qui, en soi, est une sorte d'exploit quand même. Étonnant. En tous les cas, voilà qui est extrêmement révélateur d'une forme de malaise de notre protestantisme sur cette question. Pourquoi ? Et là, je vais certainement plaider coupable, mais j'en connais quelques-uns dans l'assistance qui pourraient plaider coupable avec moi. Nous sommes quelques-uns à être certainement les champions du monde de la décrucifixion du christianisme. Et cela s'explique par une forte réaction, voire une forme d'allergie, à des discours chrétiens qui font de la crucifixion le sommet de la volonté divine, qui développent une théologie du sacrifice, par lequel Dieu conduirait son Fils à la mort pour effacer la faute d'une humanité pécheresse. Ici, l'apôtre Paul rappelle que Jésus a été crucifié justement parce que les contemporains de Jésus étaient fort éloignés de la sagesse divine. Autrement dit, ils ont accompli une œuvre éloignée de la volonté de Dieu, et non pas pour satisfaire au bon plaisir d'un Dieu qui aurait eu besoin de la mort de Jésus pour que soit rétablie l'harmonie au sein du monde. L'autre raison pour laquelle nous sommes parfois les champions du monde de la décrucifixion du christianisme, c'est qu'il est quand même difficile d'envisager qu'un acte de torture, qu'une mise à mort scandaleuse, un crime contre l'être humain, puisse être érigé en centre de la foi chrétienne. Pour ma part, il est quand même peu joyeux d'envisager de porter, par exemple, un instrument de torture autour du cou. Pourquoi ne pas mettre non plus des croix dans les temples, sur le papier à lettres, voire en faire des gestes liturgiques, tant qu'on y est. Mais il y a ce verset biblique, et bien d'autres chez Paul et dans les évangiles, qui mettent l'accent sur la crucifixion de Jésus. Nous ne pouvons pas tirer négligemment un trait sur cela et nous concentrer exclusivement sur un évangile qui serait fait d'amour et de bons sentiments. L'honnêteté nous demande de prendre au sérieux ce texte, ce qu'il dit, et d'en instruire notre théologie. Et c'est ce que je vous propose ce matin. Essayez de découvrir ce que la crucifixion de Jésus peut apporter à notre compréhension de la foi chrétienne. Essayez de comprendre ce que cela fait au cœur de notre patrimoine, selon les mots de l'apôtre Paul. Alors, premier point que je note, c'est que l'apôtre Paul associe Jésus crucifié à la question du savoir. Ne rien savoir, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ne rien savoir dans un monde qui en sait tous les jours un peu plus. Cela ressemble à une sorte d'anéantissement du savoir, comme si toutes les sciences devenaient inutiles, comme si tous les progrès finalement ne servaient plus à rien, et comme s'il suffisait de savoir Jésus-Christ crucifié pour régler tous nos problèmes, venir à bout de tous les conflits et mettre fin à tous les malheurs. Comme si la science était mauvaise peut-être même, ne rien savoir sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Comme si la science nous éloignait de l'humanité, cette humanité espérée par Dieu. Comme si la science était perverse peut-être même. Mais ce que Paul récuse ici, ce n'est pas la science ou la sagesse. Ce que Paul récuse, c'est un savoir qui se suffirait à lui-même. Un savoir qui prétendrait être suffisant. Au fond, quelques siècles avant Rabelais, Paul exprime déjà que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Quelle est crucifixion assurée ? La sagesse des hommes que Paul récuse, c'est cette science que l'homme forge à la force du poignet, en découvrant jour après jour des forces qui sont à l'œuvre dans le monde, des forces dont il se rend maître et qu'il utilise sans se poser de questions, sans se demander si c'est utile, sans se demander si cela plaît à Dieu. À qui profite la mort de Jésus ? À Dieu ? Bien sûr que non, puisque 3 jours plus tard, Pâques, viendra disqualifier la crucifixion. C'est la sagesse du monde qui conduit Jésus à la croix. C'est d'ailleurs ce que dit Paul, comme je vous l'ai rappelé. C'est la conjonction d'intérêts personnels qui a mis Jésus à mort et pas une réflexion vécue devant Dieu. Ce que la croix met en évidence, c'est la folie de la sagesse humaine quand elle est livrée à elle-même. Ce que la croix révèle, c'est le scandale que constitue une décision prise pour la seule satisfaction de mes intérêts personnels. La croix révèle l'injustice que constitue un acte dont la seule motivation est le gain que je vais en tirer. La croix, c'est donc avant toute chose un non. Un non aux logiques égoïstes. C'est un non à la mise à mort du juste. La croix, c'est un non au système de bouc émissaire. C'est un non à la loi du plus fort. La croix, c'est un non à la prétention de certains à vouloir ériger en système universel les petites combines qui les arrangent bien. C'est un non à la prétention à un savoir total et absolu qui prétendrait détenir l'alpha et l'oméga de l'histoire. C'est ce que disait la première strophe de ce cantique que nous avons chanté. La croix, c'est ce qui permet de mettre en évidence les faux dieux, les idoles. Et c'est pour cela que la croix est au cœur de notre patrimoine. C'est pour nous rappeler qu'il convient de disqualifier les discours totalitaires, les attitudes de domination, les prétentions à l'infaillibilité, toute tentative de devenir maître de l'universel. C'est le non aux idéologies qui penseraient être définitivement bonnes contre les autres. C'est un non aux modes de management qui pensent pouvoir être des manuels ultimes d'éthique. C'est l'idée selon laquelle aucune politique, aucun modèle économique, aucune théorie scientifique ne peut s'ériger en absolu. Il n'y a pas de sagesse qui peut prétendre avoir le dernier mot. Autrement dit, il n'y a pas de théorie unifiée, ni en sciences dures, ni en sciences molles, ni en quoi que ce soit d'ailleurs. Alors c'est un peu pessimiste ce propos de Paul, évidemment. On a l'impression qu'il réduit à néant toute la sagesse humaine, que tout ce que nous nous employons à découvrir finalement ne sert de rien. C'est extrêmement secondaire, accessoire. Mais Paul ne cherche pas à tout disqualifier, ne cherche pas à rayer la science de l'homme. Ce qu'il cherche, c'est à la relativiser, éviter qu'elle soit portée comme absolue. Ce qu'il s'efforce de faire, c'est de relativiser la sagesse humaine à la sagesse divine, relativiser l'esprit de l'homme à l'esprit de Dieu. Je commence par quelques exemples pour ne pas sombrer tout de suite dans la métaphysique. Prenons un groupe constitué. Choisissez ce qui vous convient comme groupe constitué. Ça peut être une église, ça peut être un syndicat, ça peut être un parti politique, ça peut être une nation, ça peut être une famille, un clan. Quand un groupe agit pour préserver les intérêts des membres de ce groupe, il agit selon une logique interne. Qu'est-ce qui est bon pour moi ? Un clan va agir selon une logique de clan, un parti selon une logique partisane, une classe selon une logique de classe. Et dans chaque cas, le groupe n'a que lui-même pour seul et unique horizon. Et du coup, on peut dire que ce groupe se tient face à lui-même. Il est porteur uniquement de ses besoins, de ses désirs, de ses revendications, de ses intérêts. Il est seul face à lui-même, au sens strict du terme, il est dans une attitude narcissique. Il pense à partir de lui-même et pour lui-même. Eh bien, c'est là la sagesse que dénonce Paul. Elle a un autre nom, c'est le corporatisme. Ce que Paul bat ici en brèche, c'est le corporatisme. Ce qu'il soutient, en revanche, c'est le groupe qui se tient face à l'extérieur, non pas dans une logique d'opposition radicale, comme le syndicat devant le patronat, mais comme un ami se tient devant un autre ami. Il se tient devant un autre, mais un autre avec lequel il va engager un dialogue, engager une conversation, et non pas un dialogue de sourds, mais un dialogue où il accepte de pouvoir éventuellement changer dans le cadre de la discussion. Il fait face à l'altérité, il considère qu'il n'est pas détenteur de la vérité, et il fait confiance à l'autre pour éventuellement pouvoir le bousculer, le déplacer dans ses convictions. Cela, Martin Luther l'a exprimé dans une formule technique, mais que vous pouvez apprendre facilement, coram Deo, devant Dieu, se tenir devant Dieu. C'est là l'une des grandes intuitions de Martin Luther. Se tenir devant Dieu, penser notre vie, non pas en ne tenant compte que de notre point de vue, mais en se tenant face à l'autre, en confrontant mon point de vue à un autre, voire à d'autres points de vue. Celui qui se tient face à moi est traversé par des élans, est animé par des projets qui ne sont pas forcément les miens. Il y a donc de l'altérité. Et cette altérité n'est pas d'emblée forcément dénuée de vérité. Peut-être que l'autre est détenteur d'une part de vérité qui m'échappe. Celui qui se tient là, face à moi, a peut-être de bonnes raisons de résister à mon désir, de ne pas se plier à ma volonté. Peut-être d'ailleurs a-t-il raison contre moi. Celui qui se tient là est peut-être détenteur d'une part d'humanité qui me fait cruellement défaut. En fait, nous sommes l'un et l'autre détenteurs d'une part du réel. C'est là qu'il va falloir bien écouter. C'est la distinction entre le réel et la réalité. Nous sommes détenteurs d'une réalité, mais cette réalité n'est pas le réel. Nous sommes détenteurs d'un point de vue sur le monde, d'un point de vue sur notre environnement, détenteurs d'un point de vue sur nous-mêmes. Mais ce point de vue n'est que partiel, et selon la formule consacrée, souvent partial. Nous avons accès à une réalité qui n'est qu'un bout du réel. Et c'est ainsi que je vous propose d'entendre le passage de l'apôtre Paul. Nous élaborons dans notre coin une réalité qui n'a qu'un rapport plus ou moins étroit avec le réel. Nous savons les choses à partir de notre point de vue. Dans les années 70, on disait « Mais toi, d'où tu parles ?» C'était un petit peu la mise en pratique de la phénoménologie. L'observateur parasite toujours l'observation. Nous savons les choses à partir d'un point de vue qui est le nôtre, qui est un point de vue partiel, et c'est cela qui explique bien des conflits, bien des drames parfois. Les conflits sociaux, mais aussi les conflits familiaux, les conflits politiques, les conflits internationaux qui sont souvent des conflits d'intérêts causés par un rapport partiel au réel. Nous pensons que nous avons une connaissance du réel, nous n'avons en fait qu'accès à une réalité. Et lorsque nous voulons imposer notre réalité à l'autre, lorsque nous voulons imposer notre point de vue, alors se reproduit le drame de la croix. Lorsque le Sanhédrin veut imposer sa réalité à Pilate, alors une croix est plantée en terre et un innocent peut s'apprêter à mourir. Et ce drame se répète inlassablement au cours de l'histoire. En revanche, le Christ Jésus révèle qu'en conjuguant nos réalités, nous nous approchons du réel, ce qu'il nomme le royaume de Dieu. Pour être plus juste sur le plan théologique, lorsque nous acceptons qu'une réalité autre se mêle à notre réalité, alors le réel s'approche de nous. Le royaume de Dieu s'approche. Se tenir devant Dieu, coram Deo, Recevoir l'Esprit de Dieu, c'est concrètement s'ouvrir à une autre réalité que la nôtre. C'est laisser une autre réalité enrichir notre propre réalité et donc mieux apercevoir le réel. C'est faire de la place en soi à une vérité autre qui me permettra d'être plus proche de l'ultime, plus proche que je ne l'aurais été seul face à moi-même. Pour le dire avec le philosophe Paul Ricoeur, c'est une citation que vous retrouverez dans l'exposition, « Le plus court chemin de moi à moi passe par l'autre. » J'ai accès à une plus grande vérité sur moi-même, et donc a fortiori sur les autres, en passant par la réalité de l'autre, par la compréhension de l'autre, par ce que l'autre a à dire de moi-même et de sa vision du monde et des choses. Alors si c'est Jésus-Christ que Paul veut savoir à l'exclusion de toute autre chose, c'est parce que Jésus a été Christ, en ce sens qu'il a donné à voir ce qu'est le réel. Et c'est là le cœur de notre confession de foi. Jésus est Christ, en ce sens qu'il a donné à voir le réel. Non pas simplement une réalité, ce que nous faisons en Église, nous approchons, mais il y a autre chose à vivre et à découvrir que ce que nous pouvons dire, témoigner, faire. Notre confession de foi, c'est que en Jésus, le réel a été manifesté. Il a incarné le réel. Il ne s'est pas contenté de la réalité qu'il a rangée. Il n'a pas été chef de parti, il n'a pas été chef de clan, gourou. Il a proposé une voie vers le réel. Et chemin faisant, il a rapproché le réel de celles et de ceux qu'il croisait sur son chemin. Quelle que soit la condition de cette personne, quelle que soit son origine, quelle que soit la nature de ses croyances et le sens de toutes ces rencontres qui sont rapportées dans les évangiles, et même face au Sanhédrin. Face au Sanhédrin qui était saturé de sa réalité propre. Le Sanhédrin qui était arc-bouté sur le pouvoir qu'il avait, avec un grand prêtre qui craignait d'être déstabilisé et de perdre sa qualité de grand prêtre, en plus au profit de ce Jésus qui aurait très bien pu revendiquer la place. Eh bien, même face à ce Sanhédrin, Jésus a continué à montrer le réel sous la forme d'un amour inconditionnel. Amour inconditionnel même pour les bourreaux, en refusant de répondre à la violence par une autre violence, en refusant de prendre l'épée pour échapper à l'arrestation, en refusant de risquer la mort de l'agresseur, alors qu'il avait lui aussi les moyens de se défendre et même de terrasser violemment ses adversaires, selon les propos qui lui sont attribués dans le jardin de Gethsémani. Mais Jésus ne tirera d'aucune manière sur ses agresseurs, fût-ce par la parole. Ne rien savoir d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Au fond, ce n'est pas faire de la croix un art de vivre. Ce n'est pas faire de la victimisation un fonds de commerce. Ce n'est pas opter pour le masochisme. C'est considérer que la croix est un lieu de la révélation. Et que la croix nous dit quelque chose du divin, de l'humanité véritable, que nous ne trouvons pas beaucoup ailleurs. C'est tout d'abord le fait qu'il y a ce Jésus-Christ qui est la figure authentique de l'homme authentique, c'est-à-dire de l'homme tendu vers l'ultime. Et puis la croix, c'est aussi ce qui désigne quelques limites. Cette limite à notre tentation de toute puissance, de toute domination. C'est la croix qui nous révèle que c'est dans le face-à-face avec le divin, le face-à-face avec l'autre, qu'une vérité s'élabore véritablement. Que la figure du Christ ne se rencontre qu'à travers le visage de l'autre, de celui qui se tient face à moi. Cet autre qui me fait face et qui porte mon regard, qui porte ma sagesse un peu plus loin que ce que mon seul regard m'autorise. En direction de cet horizon que l'apôtre Paul décrira quelques chapitres plus tard dans les termes de corps glorieux, de résurrection. Amen.